Merci beaucoup pour la présentation. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité. Certes, les participants au débat public répondant souvent, pas toujours, quand les formats ne collent pas, mais répondant souvent aux médias, etc., on peut avoir l'impression que de connaître quelqu'un. Pour autant, bien souvent, bon, voilà, ce qu'on voit paraître, les quelques phrases qui sortent dans un article de presse ou des 3 minutes d'interview dans une radio, ce n'est pas ça qui donne véritablement une image. Donc, pouvoir présenter mon travail, j'en suis très heureux. S'agissant en plus d'un travail sur la vidéosurveillance qui n'a jamais été central dans mes travaux, mais qui était un livre que moi j'ai beau. Enfin, un travail qui finit par un livre, mais une recherche que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Et la notion de plaisir dans nos métiers, je pense, c'est important. Ce n'est pas omniprésent, ce n'est pas toujours le cas. Il y a un tas de choses qui ne sont pas forcément... Voilà. Mais quand on peut vraiment s'éclater intellectuellement sur quelque chose, bah, ça fait du bien. Et moi, ça a été le cas sur ce travail, qui est un travail au long cours, vous verrez, qui s'est construit très, très, très lentement. C'est aussi un bon exemple de la façon dont je conçois effectivement la sociologie. C'est ce que j'essaie de dire dans le petit appendice à la fin du livre, qui s'appelle « Réponse à ceux qui se demandent à quoi sert la sociologie ». Que j'ai ancré dans les petits débats et les petites polémiques récentes au milieu, mais qui est une réflexion de, là aussi de longue durée pour moi. Et c'est un bon exemple de ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire quelque chose qui, dans mon esprit, les commentateurs diront ce qu'ils en pensent, dans mon esprit ne cède absolument rien sur la méthode, sur le dispositif de recherche, mais qui cherche à le traduire d'abord dans un langage qui soit résolument plus grand public, entre guillemets, hein. Typiquement dans ce genre, dans ce livre-là, en tout cas qui essaye de rendre accessible le plus possible sans rien concéder en termes de rigueur méthodologique. C'est deux choses que j'essaie de tenir ensemble, c'en est un exemple, je vous dirai si vous l'avez trouvé réussi ou pas. Voilà. Et c'est aussi un bon exemple de la façon du coup dont je conçois l'espèce de sociologie engagée, je ne sais pas comment on va le dire, sociologie critique, diraient certains, je n'appartiens à aucune école, mais... voilà, c'est aussi un bon exemple de la façon dont je le conçois, à travers effectivement ce que tu viens de dire, Ariane, cette triple opération intellectuelle, de d'abord déconstruire une raison, une question de toutes les représentations, les imaginaires, les discours dont elle est surchargée, ensuite, pour ouvrir les yeux et enlever les œillères, ensuite d'analyser le problème dont il est question, le comportement, l'institution, la politique publique, quel que soit le sujet, là c'est plutôt une politique publique. Et ensuite, à partir de là, de reconstruire ce que peuvent être les termes d'un débat citoyen, non pas pour dire les réponses, mais pour dire quelles sont au moins les bonnes questions. Voilà, c'est comme ça qu'effectivement j'essaye de concevoir ma sociologie un peu engagée que je pratique. Voilà. Alors, quelques mots sur ce qui est toujours très important, la cuisine, et qui n'apparaît pas directement dans le livre, sauf quand ce sont des sociologues... expérimentés comme vous qui l'ont lu, là ils le devinent, mais j'explicite ici plus clairement comment ça s'est fait. Ce qui m'a d'abord passionné dans cet objet, c'est le fait que voilà une nouveauté, hein, une technologie qui se présente comme quelque chose qui va arriver et changer, voire révolutionner dans le discours de certains les pratiques, les façons de faire la sécurité au fond, et de contrôler la délinquance, qui survient à un moment donné, en plein dans mon champ, hein. Donc c'est en gros en 2007 que ça devient une politique nationale. On parle bien de la vidéosurveillance de la rue, hein, entendons-nous bien, je ne parle pas de celle qui existe dans les commerces privés depuis très longtemps, de la vidéosurveillance qui nous suit lorsqu'on roule sur l'autoroute, etc. Alors, on parle de la vidéosurveillance de rue, ce qui dans le langage de l'État, depuis 2011, depuis un article d'une loi de 2011, s'appelle officiellement vidéoprotection. Mais je me passerai du langage de l'État pour continuer à parler de vidéosurveillance. En précisant bien que c'est donc la rue, la voie publique, hein, qui est l'objet. Donc voilà, ça survient en plein milieu de mon champ de spécialité, donc c'est en soi passionnant, je trouve, de se mettre comme ça sur quelque chose d'un petit peu nouveau, qu'en plus qui se présente donc comme assez révolutionnaire, qui pourtant a intéressé peu de personnes. Alors, deux autres chercheurs essentiellement, deux collègues sociologues, Tanguy Le Goff et Eric Hellman, ont fait des travaux depuis une douzaine d'années, je dirais, des travaux importants mais épars, étudiant un aspect de la question. Il n'y a jamais eu de tentative d'approche globale de la chose. Mais j'ai bien sûr suivi, et depuis longtemps, ces deux chercheurs, ainsi qu'un journaliste spécialisé, Jean-Marc Manac, qui tient un blog sur le site internet du journal Le Monde, hein, qui s'appelle Bug Browser, pas Big Bug Browser, son blog, et qui est également quelqu'un qui a enrichi ma bibliographie, piqué ma curiosité, en allant chercher beaucoup, en travaillant le sujet comme un journaliste d'investigation, au fond. Hein. Ce sont les trois personnes qui, incontestablement, ont le plus éveillé et attiré mon attention au départ sur cet objet. Ensuite, beaucoup le savent, j'anime un site internet qui au départ était un petit truc perso, le fait ridicule qu'il porte mon nom dans l'URL, je ne peux plus le changer depuis longtemps, mais qui est devenu au fil du temps beaucoup plus qu'un truc perso, qui est devenu un site qui fait un peu référence, je pense, dans le champ, qui a 13 000 abonnés à sa newsletter. Et à travers ce site, j'ai suivi l'actualité du thème en publiant ce que je pouvais voir passer de collègues chercheurs là-dessus ou d'enquêtes de journalistes spécialisés. Donc j'ai toujours eu un œil là-dessus, étant l'administrateur aussi de ce site. Donc j'ai suivi cette question, au fond, en fait, sur 10 ans. Et comme j'ai toujours eu dans un coin de la tête que c'était quelque chose d'intéressant ou peut-être un jour je ferais quelque chose, mais ce n'était pas sûr, je m'étais mis aussi, depuis presque une dizaine d'années, des alertes Google, hein, tout simple, sur mots-clés, vidéosurveillance, vidéoprotection, qui font que, qui rajoutent à ma liste de mails de tous les jours, mais puisque tous les matins, j'ai mon petit mail Google vidéosurveillance et mon petit mail Google vidéoprotection avec une dizaine d'articles. L'avantage de ce système étant de m'avoir permis de constituer une absolument énorme base de données d'articles de presse, puisque ce moteur de recherche va sortir l'article qui est en page 17 de l'édition locale des dernières nouvelles d'Alsace, que j'aurais jamais eu l'idée d'aller chercher, et qui parle de l'implantation d'un système de vidéo dans le petit village de 320 habitants de l'Est du Jura, bon, que sais-je. Bref, voilà. Donc ça m'a permis de constituer un des éléments sur lequel je reviendrai, qui est l'espèce d'énorme base de données d'articles de presse régionale que j'ai constitué principalement grâce à ça. Ensuite, et c'est tout à fait déterminant, j'ai eu à plusieurs reprises ces dernières années, dans le cadre de l'Observatoire ou bien juste avant que je le crée, l'opportunité de me voir confier par des municipalités et par le partenariat local, qu'on appelle les CLSPD, les contrats locaux de prévention et sécurité, enfin sécurité de prévention de la délinquance, de me voir confier une mission de diagnostic et d'expertise sur des villes, ce qui revient à donner une clé d'entrée dans des institutions, des administrations, où d'ordinaire, il n'est pas possible de pénétrer. Ou si ce n'est pour faire un reportage prévu dans le cadre de la com, vite fait, bien fait, bon, mais pas d'investigation. Donc j'ai pu, à plusieurs reprises, obtenir la totalité des données qui existent, et faire de l'observation, de l'entretien, du calcul me permettant de produire mes propres données, hein, mais en ayant un accès total, sans limite, aux administrations et aux institutions en question, qui d'ordinaire, je le répète, ferment cette porte. Sans cela, sans ces missions officielles qui m'étaient confiées, je n'aurais jamais pu collecter ces matériaux de première main, avoir ce type de précision, faire ce type de calcul. Bon. C'est, je crois, une des différences avec les autres études et autres chercheurs qu'il y a pu y avoir. C'est cela. Alors j'ai eu l'occasion de le faire sur plusieurs territoires. J'en ai retenu trois dans ce travail et dans ce livre, parce que c'est une façon d'illustrer et de faire un certain tour de la question. J'ai pris trois villes parce qu'il y en a une petite, une moyenne et une grande. Une en zone gendarmerie, deux en zone police, une dirigée par une équipe municipale de droite, une de gauche, une de centre. J'ai essayé de varier un petit peu les configurations. Alors j'ai anonymisé les trois villes dans le livre parce que l'intérêt c'est évidemment ce qu'on en raconte et pas le nom dont on se fiche complètement, et puis parce que je me méfie de la répercussion du journaliste qui voudra aller retourner des images pour me faire parler ou retrouver des gens que j'ai pu voir. Je me méfie de ce genre de choses, c'est déjà arrivé dans des recherches. Alors pour les deux premières villes, je pense qu'en le disant vous n'avez pas su ce que c'était. La troisième, malheureusement, on comprend forcément, puisque dès que j'ai dit la population, 870 000 habitants, on a compris que c'était Marseille, je ne peux pas le cacher. Et puis dès que j'ai cité 3-4 travaux de référence sur la ville de d'autres collègues, tout le monde a compris. Donc je ne cherche pas à le cacher, celle-là, tout le monde le saura. Les deux villes resteront anonymes. C'est donc une petite ville et une moyenne ville sur laquelle j'aurai quelques éclairages dans un instant. J'ai reçu tout au long de ces années, alors les terrains se sont échelonnés entre 2012 et 2016. Ça, je dis que c'est vraiment une recherche au long cours qui n'était pas partie pour travailler là-dessus. C'est parce que le premier gros diagnostic que j'ai fait, la grosse étude de terrain que j'ai faite en 2012 à ce qui devient ici Saint-Paul-la-Rivière, dans le sud de la France, Je venais pas pour étudier la vidéosurveillance, encore une fois. Je venais pour diagnostiquer globalement les problèmes de sécurité à l'échelle d'une ville et diagnostiquer aussi la politique publique partenariale qui était mise en œuvre pour gérer ces problèmes. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu cet accès inespéré. Et du coup, j'en ai profité pour rester un peu plus de temps et commencer à me dire, je vais creuser ça. Au départ, c'était juste pour en faire un jour un article, ce que j'ai fait. Et puis voilà, ça s'est accumulé et ça a donné matière ensuite. Au cours de ces trois terrains, j'ai par ailleurs reçu le concours, j'ai été assisté par plusieurs personnes, Daphné Bibard, ici présente, Émilie Raquet, que beaucoup d'entre vous ont connu, qui était l'ingénieur de recherche que j'avais recruté à l'Observatoire et qui m'a assisté pendant des années sur toutes les grandes enquêtes qu'on a pu faire, Joël et Jérôme, qui sont deux collègues enseignants en lycée, qui m'ont également aidé sur la première des enquêtes à Saint-Paul, avec leur promo, ils enseignent en BTS dans un lycée, et avec leur promo d'étudiants, c'est avec eux que j'ai fait là-bas la première enquête en population générale, une enquête sur la victimation et le sentiment d'insécurité. Donc ils ont également participé à cette recherche. Une des choses qui me satisfait, qui m'a le plus éclaté intellectuellement, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir dans ce travail mis en œuvre, au fond, à peu près toutes les méthodes qui constituent l'arsenal du sociologue. Alors, à savoir le recueil, le traitement, l'analyse critique des données statistiques produites par les administrations, hein, typiquement des statistiques de police et de gendarmerie, on va y revenir, croisé par ailleurs toujours au plan quantitatif avec des enquêtes en population générale, en l'occurrence fabriquées par le chercheur lui-même et son équipe, donc des enquêtes sur la victimation et le sentiment d'insécurité, au plan des méthodes qualitative des entretiens avec toute la gamme qui va du plus au moins formalisé, évidemment. Les observations in situ, par exemple, s'enfermer pendant 2 semaines dans un centre de vidéosurveillance pour voir ce que voient les opérateurs, etc. La constitution donc d'une base d'articles de presse sur 10 ans à partir des alertes dont je vous parlais, qui m'a conduit à une base exploitée, parce que j'ai été dépassé en fait par la quantité au fil des années. Donc j'ai dû arrêter pendant une certaine période. Au final, c'est quand même plus ou moins 500 articles. J'en exploite qu'un dixième à peu près dans la version imprimée. Mais derrière ça, bon, l'éditeur m'a coupé. Il y a déjà 30 pages de notes, je crois, accumulées. Et il y en avait 60 au début, donc j'ai taillé dans tout ça. Enfin, je le signale aussi parce que ce n'est pas systématiquement le cas. Ça devient de plus en plus au fil des années. J'ai un petit peu de recul maintenant sur le métier en vieillissant. Mais quand j'ai commencé ma carrière, il y a quand même la majorité de mes collègues ne prenaient pas la peine de lire les travaux anglo-saxons sur les questions sur lesquelles ils travaillaient. Or, sur les questions qui touchent la criminalité et la justice, il y a des usines entières de production scientifique de valeur très inégale, bien sûr, mais il y a des dizaines de revues, etc. Bon. Donc connaître quand même les principales, hein, je n'ai évidemment pas cherché à tout lire, mais connaître au moins les principales évaluation de sciences sociales sur le même objet qui ont été faites au cours des 15 ou 20 dernières années dans d'autres pays paraît la moindre des choses. Je dirais qu'il y a une trentaine de références à mes yeux importantes que j'ai lues et avec lesquelles j'ai pu confronter, comparer mes propres recherches. Alors un petit mot rapide parce que j'ai pas le temps de passer tout en revue, mais juste pour donner quelques points de repère, le travail commence par un chapitre historique, bien sûr, hein, toujours faire la genèse. L'histoire de ce qu'on étudie, ça permet déjà de comprendre en fait beaucoup de choses rien qu'à travers ça. On a, comme c'est le cas souvent avec les technologies de sécurité, quelque chose qui s'appelle au départ la télésurveillance et qui est né pendant la Deuxième Guerre mondiale au croisement d'enjeux militaires, commerciaux et politiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais je raconte ça plus longuement, y compris avec toutes les choses un peu étonnantes et assez cyniques politiquement qu'on peut rencontrer dans ce qui se passe pendant et après la guerre. Les premiers usages civils suivent immédiatement après la guerre. Au début, c'est la télésurveillance que, au fond, les riches propriétaires américains mettent pour surveiller la grille qui est très éloignée de leur maison parce qu'ils ont un immense jardin autour qui finit avec le parking autour d'une piscine. Enfin, vous voyez bien l'image. Donc c'est ce type d'usage civil qu'on a dans un premier temps. Il est intéressant de voir aussi, puisqu'on va travailler aussi sur les représentations, qu'on a également les premières fictions qui mobilisent cette technologie qui apparaissent à la fin des années 40. Alors il y a bien sûr le fameux roman noir d'Orwell 1984 en 1949, mais peu connu, un auteur français de science-fiction, Barjavel, qui également exploite ce thème et cette technologie dès cette époque-là. Et j'y insiste parce que, véritablement, jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de représentations et de discours, on est parfois au moins autant dans la science-fiction que dans la réalité. La question de l'enregistrement démarre donc dans les années 70 avec la technologie analogique. On ne peut pas encore coupler ça, voir à distance, loin, mais on peut commencer déjà à enregistrer. On a surtout, c'est intéressant, je ne peux pas le développer là aussi, mais c'est intéressant de le signaler, on a une première expérience d'utilisation policière massive de la vidéosurveillance à New York, à Manhattan, dans un quartier bien connu, Times Square, qui à l'époque est un haut lieu de prostitution, de contrebande, de trafic de drogue, etc. Et on a une première expérience qui se solde déjà à l'époque par un échec. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais les raisons pour lesquelles ça a échoué à l'époque sont largement transposables et utilisables aujourd'hui. On a ensuite, et ça nous amène petit à petit à notre situation, on a ensuite une première généralisation, une première politique nationale construite sur la vidéosurveillance qui a lieu en fait en Angleterre, à la fin des années Thatcher, lorsque c'est John Major qui devient le Premier ministre anglais en 1990, et qui va, c'est la première fois, et c'est intéressant de le dire parce que la France va largement copier, Nicolas Sarkozy va largement copier ce modèle, presque 15 ans après, pardon. Donc en 1990, c'est l'Angleterre qui pour la première fois lance un grand programme national sur fonds publics nationaux d'équipement en vidéosurveillance, de manière massive, au point que très rapidement, le pays et surtout la ville de Londres qui va concentrer les équipements va devenir la ville la plus vidéosurveillée du monde. Aujourd'hui, ce titre peut lui être conseillé par plusieurs villes, en particulier chinoises, mais pendant longtemps, c'était véritablement Londres. La principale différence avec ce qui va se passer en France, je le signale parce que c'est quand même révélateur et intéressant, c'est que le gouvernement anglais, dès le départ, prévoit qu'au Home Office, au ministère de l'Intérieur anglais, une partie du budget va être consacrée à évaluer cette technologie, ce qui ne sera jamais le cas en France, ni au plan national, ni au plan local. Alors, en France, on a, assez rapidement, à la même époque, dès que le modèle anglais commence à fleurir, on a d'abord, en fait, quelques initiatives locales chez des élus locaux qui, très clairement, commencent, ce qui va par ailleurs être aussi le début d'une nouvelle ère politique, commencent à exploiter massivement le thème de la sécurité, non plus simplement au plan national, comme c'est le cas depuis le milieu des années 70, mais cette fois au plan municipal, et à faire de la sécurité un enjeu municipal premier. Ce qui est nouveau, hein, ce qui se constitue dans les années 90, et ce qui atteindra un premier paroxysme et se verra de manière très très flagrante au plan politique et médiatique lors des élections municipales de 2001 et n'a cessé de progresser depuis. Donc ça commence par quelques initiatives locales, les deux plus connues étant celle de Levallois-Perret avec son inénarrable et multirécidiviste condamné, où est-il mon étudiant de droit, je peux le dire, condamné monsieur Balkany, et également pour notre région des villes comme Avignon. D'autres initiatives qui sont d'ailleurs ce qui pousse le législateur à, dans la loi de programmation sur la sécurité de 1995, de consacrer un chapitre pour essayer d'encadrer, commencer à encadrer juridiquement ces pratiques. Ces pratiques se développent mais restent limitées à quelques centaines d'initiatives, moins de 200 vraisemblablement, il n'y a pas de recensement à l'époque, jusqu'à ce qu'en 2007, Nicolas Sarkozy, anciennement ministre de l'Intérieur, devenant président de la République, décide d'en faire une politique nationale, à travers un système extrêmement costaud d'incitation politique et financière sur lequel je vais revenir. Globalement, au même moment, je propose à la fin un petit tour du monde très rapide, au moins du monde occidental très rapide, pour signaler en particulier que déjà avant, mais surtout après les attentats du 11 septembre 2001, c'est la peur des attentats qui devient l'argument politique majeur soutenant le développement de cette technologie, lors même, j'insiste pas plus ici, éventuellement j'irai en conclusion si j'ai le temps, lors même que s'il y a précisément déjà une leçon qu'on peut tirer, c'est que, à ma connaissance, nulle part, jamais, en aucun pays, l'existence, quelle qu'elle soit, d'un dispositif de vidéosurveillance n'a pu faire autre chose que retrouver après coup des images de quelqu'un qui s'apprêtait à tuer des gens. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, jamais, nulle part, dans aucun pays, des images ont pu permettre d'attraper ultérieurement quelqu'un qui ne s'était pas suicidé en faisant l'attentat et ainsi l'empêcher d'en faire un autre. À ma connaissance, jamais, nulle part. Au mieux, retrouver des images. Et ce ne sont pas être mauvaise langue, puisque même dans un rapport de l'IHESI il y a quelques années, Je ne suis pas le premier à remarquer que par ailleurs, le fait, l'existence de ces images et leurs répercussions médiatiques, par ailleurs, fournit un point d'appui très important à la propagande des terroristes en question. Participe à leur héroïsation dans l'univers de la propagande terroriste. C'est dire si l'efficacité en termes de lutte contre les attentats est plus que réduite, pour ne pas dire dramatiquement dérisoire. Alors, un des premiers problèmes auxquels j'ai été confronté lorsqu'on passe de ces terrains à une tentative nationale, c'est la difficulté qu'il y a à chiffrer des choses, à évaluer l'état des choses. Donc, j'y consacre aussi un petit... Donc je ne vais pas vous embêter longtemps avec cette histoire de chiffres, mais c'est quand même intéressant et à certains égards révélateur de savoir que le ministère de l'Intérieur ne tient aucun recensement précis, alors même que lui seul en a la capacité. Pour la raison suivante, toute commune ou établissement public désirant s'équiper ou désirant modifier, déjà équipé, modifier son système de vidéosurveillance doit demander une autorisation préfectorale. Par conséquent, dans chaque préfecture existe une commission départementale de vidéoprotection qui recense et ensuite autorise ces demandes d'équipement, et donc il suffit de collationner ce qui remonte de tous les départements, des 101 départements français, pour ensuite faire une petite addition et savoir où on en est. Voilà. Sauf que cette opération n'est pas faite. La seule fois où elle a été faite, en 2012, elle n'a pas été rétrospective sur toute la durée qui était possible, mais remontée qu'en 99. Bon, donc, au premier abord, ça n'existe pas. Alors, on lit ensuite de la documentation officielle. On tombe, par exemple, sur le rapport annuel du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui nous dit en 2016, il y a 51 934 caméras. Waouh. OK, ils ont un truc super précis. Sauf que, 4 ans plus tôt, la CNIL disait, hop, il y en a au moins 70 000. Sauf que, 2 ans avant, l'Association des marchands de vidéosurveillance disait, oh, il y en a au moins 102 000. Enfin, c'est quand même le double de ce que disait, etc. Alors, on continue sa petite enquête, on s'aperçoit assez vite qu'on se heurte à un autre problème, qui est que, outre les caméras de rue filmant exclusivement la rue, il existe par ailleurs beaucoup plus, en réalité, de caméras filmant des lieux ou des établissements ouverts au public, et qui filment partiellement des bâtiments qui peuvent être des bâtiments publics, partiellement des bâtiments privés, et toujours, au moins en partie, la voie publique elle-même. Donc, il y a des mixtes de public et de privé, ou des mixtes de public fermé ou de public ouvert. Ce qui complique beaucoup le comptage, on ne sait plus trop ce qu'on on va compter. Alors, je vous passe les détails, mais je finis par proposer une évaluation qui est un minima, vraiment un grand minima, et vu les rythmes de croissance actuels, je pense qu'au jour où nous parlons, il est déjà dépassé, un minima de 150 000 caméras filmant exclusivement la vidéosurveillance et d'1,5 million filmant des lieux et établissements ouverts au public. Donc, dans tous les cas, on est à minima trois fois plus haut que les évaluations officielles du ministère de l'Intérieur. Ça peut même poser question. Alors, ce qui veut dire, quand on fait un petit comptage, ensuite on passe à un comptage presque manuel, hein, c'est-à-dire que j'ai fait uniquement pour les grandes et pour les 40 premières moyennes villes, je les ai prises une par une. Donc, je ne peux pas le faire évidemment sur les 36 000 communes. Ni demander, comme je l'ai fait pour les Bouches-du-Rhône, à la commission départementale de m'envoyer ces données et puis de rentrer dans une procédure, aller voir la CADA si elle ne me donne pas, enfin voilà, pour tous les départements, c'est, empiriquement c'est pas possible. Par contre, prendre les grandes villes les unes après les autres et les plus importantes des moyennes villes, c'est faisable. On aboutit au constat que 92% des grandes villes ont un système plus ou moins développé de vidéosurveillance, 85% des villes moyennes, et surtout quand on regarde les rapports sur les qui comptabilisent les demandes actuelles d'autorisation soumises aux préfectures, on s'aperçoit que les plus forts pourcentages de croissance d'une année sur l'autre, depuis à la fois 5-6 ans, et a fortiori depuis les attentats de 2015, ce sont les petites villes et les villages. Autrement dit, on a eu donc une première phase qui a en gros saturé les grandes villes et les plus grandes des moyennes villes, et on est actuellement sur une vague qui porte sur les petites villes et jusqu'aux plus petits villages. On verra tout à l'heure, limite parler de hameaux, quoi. Alors, comment comprendre ce succès, puisque c'est quand même globalement un succès incroyable en l'espace de 10 ans, hein, quelque chose qui était quasi inconnu ou réservé à ce qui paraissait être quelques élus un peu étranges, finalement s'est imposé comme quelque chose qui est totalement banalisé, en partie, on le verra, en partie seulement dépolitisé, et qu'on peut trouver jusqu'au moins de petits villages où on va passer des vacances, etc. Alors, pour le comprendre, il faut rentrer à la fois dans les imaginaires, on va le voir, dans la politisation, dans la commercialisation, tous les facteurs qui ont concouru, à mon sens, au succès politique, en tout cas, de cette technologie. Alors, quels sont les imaginaires pour les représentations qui s'affrontent? Elles s'affrontent avec, de fait, une légende noire et une légende dorée. Et donc, la première tâche du sociologue, à mon sens, va être ici de mettre à distance ces deux imaginaires, hein, l'imaginaire héroïque et puis le côté obscur. Alors, le côté obscur, c'est bien sûr Orwell, 1984, Big Brother is watching you. Beaucoup de gens qui reprennent rapidement cette formule-là, oubliant quand même toujours que le monde politique que décrit Orwell est une dictature et non une démocratie. Ce qui change évidemment beaucoup de choses dans le fait qu'on puisse immédiatement s'emparer de ces représentations et de ces peurs. Bon. Mais un certain nombre d'associations ne s'embarrassent pas de ça pour dénoncer, dans le principe même de toute opération consistant à filmer une personne en dehors de sa vie privée, en dehors de son lieu de vie privée, pardon, pour y voir par principe et d'office une manifestation d'un Big Brother guidant une pensée étatique globale, etc. On a comme ça un certain nombre de discours. Je les analyse en détail pour montrer également leurs limites ou leur caractère très dogmatique. J'analyse également, j'ai fait la différence avec une critique associative qui n'a pas besoin d'aller chercher, d'agiter l'épouvantail au fond Orwell et 1984 pour critiquer l'usage de la vidéo, à la fois dans le manque de transparence des raisons pour lesquelles une mairie le choisit et du coût que ça a pour les finances publiques locales, d'une part, en questionnant par ailleurs le respect strict de la vie privée dans le fonctionnement technique même du système de vidéosurveillance, et par ailleurs en se demandant quelle peut être la participation des citoyens à cette entreprise. Alors ça, c'est une position qu'il faut donc distinguer, je répète, des critiques de principe qu'on rencontre aussi. C'est par exemple la position de la Ligue droit de l'homme, hein, très importante association dans le champ évidemment, qui depuis le début suit ces questions de Masser de manière assez précise et qui développe une argumentation voilà, qui n'est pas, encore une fois, un rejet de principe par opposition radicale et par peur du Big Brother, mais par souci de vraiment questionner qu'en est-il de la vie privée, qu'en est-il de ce contre quoi on prétend lutter, qu'en est-il du coût et du rapport coût-avantage de la chose, voilà. S'inspirant aussi du travail des chercheurs, y compris le mien, donc dans un jeu où là, on participe tous quelque part à ça. Donc je critique cela et je signale que cette critique associative non dogmatique, pour aller vite, je vais dire ça, c'est souvent un peu plus mélangé et confus, hein, mais puis selon les personnes, mais cette critique associative non dogmatique, par ailleurs, peut être jugée d'autant plus légitime et nécessaire, et même indispensable, que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui chaque année fait des contrôles, alors elle en fait peu parce qu'elle a peu de personnel et à longueur de rapport annuel, elle explique qu'elle ne peut pas contrôler grand-chose. Mais dans le peu de choses qu'elle contrôle, et lorsqu'on les cumule d'année en année, eh bien on s'aperçoit néanmoins, c'est ce qu'elle a fait dans un de ses rapports annuels il y a quelques années, en cumulant tous les contrôles qu'elle avait faits, on s'aperçoit néanmoins que dans un contrôle sur quatre, elle trouve des non-respects d'obligations officielles, alors qu'il s'agisse de la formation des gens qui regardent, qu'il s'agisse de la durée de conservation des images, qu'il s'agisse du caractère efficient ou non du système, du logiciel qui est censé flouter les images dès qu'une caméra tournante passe devant les immeubles, les fenêtres d'un immeuble, par exemple. Voilà, il y a toute une série de choses techniques qui, dans le terme de la loi, sont respectées, mais qui, dans l'application de la loi, ne le sont pas nécessairement. Il y a donc une vigilance citoyenne que j'ai découvert assez fondamentale dans ce domaine comme dans d'autres. Hein. On parle souvent des questions d'environnement dans un autre axe, par exemple, hein, du labo. Il y a ici une pratique associative et une vigilance citoyenne qui joue un rôle tout à fait essentiel, non pas, encore une fois, pour soupçonner la loi, l'intention de machin, mais pour surveiller que la loi est réellement appliquée. Dans toutes les contraintes qu'elle pose aux municipalités, en particulier pour mettre en place un système. Fait face à cela, dans nos imaginaires et dans les discours, la légende dorée de la vidéosurveillance, qui est, que j'ai appelé le vidéoflag. Hein. La légende dorée, c'est cette idée que, bah, oui, si ça révolutionne tout, bah, c'est parce qu'on va enfin avoir la tête en gros plan, face caméra, du type pistolet à la main, comme s'il disait « Regardez-moi bien, je vais rentrer braquer la pharmacie. Hein. Ça y est, vous l'avez, ok, j'y vais. » Bon, ce qui, évidemment, n'arrive quasiment jamais, bien entendu, mais c'est ça le mythe. Hein. On va pouvoir élucider instantanément, hein, par la reconnaissance, de la personne. Et pour peu qu'on puisse par ailleurs connecter tout ça un jour à des bases, etc., bon, voilà, l'ordinateur nous dira son nom tout de suite, son adresse, puis on aura plus. Donc c'est le mythe du vidéo flag. On verra pourquoi et pourquoi et tout à l'heure il est. Qui correspond aussi à cette idée que d'aucuns considèrent comme fort agréable de révélation et d'arrestation immédiate. Hein, le fameux, comme disait Michel Le Canabru dans cette scène de Subway, hein, police, menottes, prison. Alors, c'est le fond, évidemment, de la rhétorique de la légende dorée, hein, l'exact pendant opposé du Big Brother. Et ça va véritablement constituer la propagande, il n'y a pas d'autre mot, la propagande du ministère de l'Intérieur à partir de 2007, qui sur son site internet, à l'onglet vidéoprotection, va pendant des années, tous les mois, produire un communiqué de presse sur les affaires élucidées par les services grâce à la vidéosurveillance durant le mois 2 et en avant, juillet, août, septembre, octobre, etc. Racontant à chaque fois en trois lignes la petite histoire qui va bien. Le 5 juillet 2012, sur la gare de Bordeaux-Saint-Jean, grâce au dispositif de caméra implémenté depuis que nous avons pu arrêter instantanément celui qui venait de faire ceci, faire cela. Voilà, des petites histoires. Mais quand on les regarde, en réalité, vous avez dû voir ça, quand on les regarde, on s'aperçoit qu'en réalité, dans la plupart des cas, ce ne sont pas des caméras de voie publique, mais des caméras qui sont dans les commerces, qui ont permis de faire ça, ce qui est beaucoup plus logique, puisque la caméra dans les commerces qui est fixe derrière le commerçant face à l'entrée est faite précisément pour prendre, pour qu'on voit bien la personne et son visage rentrant par la seule porte, etc. Bon, pas grand chose à voir avec les caméras tournantes de la rue. Deuxième raison pour laquelle, donc propagande politique très 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 forte, très nourrie, soutenue derrière par les organisations policières, on verra pourquoi, elles ont un petit avantage, il est en fait petit, on le verra, mais il existe, donc tout est bon à prendre, elles ont un petit avantage à ce qu'effectivement existent des systèmes de vidéosurveillance, relayés jusque localement par le biais de la chaîne de l'État, c'est-à-dire par le biais des préfets. Et donc, je n'ai pas le temps de raconter ça en détail dans le livre, j'y fais que quelques allusions, mais aux réunions que les préfets localement organisaient ensuite en convoquant les maires jusque dans les petites communes rurales, puis avec un officier de gendarmerie, un commissaire de police à côté d'eux pour leur vanter les mérites et de la chose. En mettant en avant, donc, on vient de le voir avec ces communiqués, le principe de la belle histoire, hein, du fait divers qui va bien, en recevant là-dessus d'ailleurs la complicité de facto, hein, je dis bien de facto, pas forcément stratégie à chercher, hein, a fortiori pas de grand complot, mais en recevant la complicité de facto des médias et notamment de la presse quotidienne régionale, en gros, ben voilà, lorsque le service de police ou la préfecture ou la mairie qui veut vanter son système, ben, produit un communiqué de presse en disant, ben, l'exemple typique que je disais tout à l'heure, hein, hier soir sur le quai de la gare, tagada, nous avons pu, c'est l'assurance quasi d'avoir une petite brève le lendemain matin dans la presse quotidienne régionale. Ça marche quasiment à tous les coups. Et on verra du coup tout à l'heure, en ayant comme ça régulièrement, ne serait-ce qu'un par semaine à l'échelle d'une grande ville, ça peut donner l'impression de quelque chose qui en permanence est une incroyable technologie permettant d'arrêter les délinquants, alors même que ce n'est qu'une série de faits divers. Enfin, bien sûr, l'argument majeur de cette politique d'État, c'est son incitation financière, puisque la proposition de départ consiste à dire on crée un organisme pour ça, de dépôt et consignation au fond de cet argent public, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui va en fait, pendant les années Sarkozy, consacrer jusqu'aux trois quarts de ces fonds à la vidéo, et on dit aux communes, l'État peut contribuer jusqu'à 50% de vos coûts d'investissement dans la technologie. Ce qui laisse penser, mais beaucoup de maires ne s'arrêteront là, malheureusement, mais ce qui pourrait au plus éclairé, leur laisser tout de suite deviner qu'il manque donc la fin de la phrase, qui est « quant aux coûts de fonctionnement, ils seront à votre charge exclusive aux communes hein. ». Autrement dit, si vous voulez qu'il y ait autre chose que simplement des caméras, mais des gens qui les regardent, ça vous regardera. Mais donc, comme au départ, on vendait principalement quand même l'enregistrement, moins que la détection en direct, l'État disait « je paye 50% de la facture ». Enfin, on sait peu, jusqu'à récemment, on savait peu, en tout cas, mais on sait très peu que en fait, tous les niveaux de gouvernance sont concernés et que départements et régions sont également partie prenante de l'affaire. Alors, les régions, on le sait un peu plus parce que depuis les dernières élections de fin 2015, on a bien vu, en particulier dans notre région, juste au-dessus, en région Rhône-Alpes, en Languedoc, hein, bon, en particulier dans le sud de la France et en région parisienne, on a bien vu que les futurs présidents de région faisaient à leur tour également de la sécurité une question politique majeure et que dans leur programme, il y avait massivement, parfois même il y avait presque que ça, la vidéosurveillance, pour ce qui concerne la région, à savoir notamment les transports régionaux en train et les lycées notamment, avec des montants assez faramineux de plusieurs centaines de millions d'euros. Et on ignore encore plus que les départements, en réalité, et de façon d'ailleurs politiquement relativement clivée, les départements ont depuis toujours également contribué. On le sait peu parce que d'abord ils ne s'en vendent pas et qu'ensuite, en termes de ligne budgétaire, ça n'apparaît pas, ce n'est pas une ligne spécifique, il n'y a pas de budget prévention sécurité dans les budgets des départements, ce n'est pas une compétence départementale. Par contre, il y a un gros budget dans beaucoup de départements qui s'appelle aide aux communes. Et c'est dans ce budget d'aide aux communes qu'en réalité, pendant des années, on va trouver du cofinancement de la vidéosurveillance. Ce qui fait qu'au final, la plupart des communes ont bénéficié en fait d'un triple financement, hein, commune, État, région. Deuxième raison massive pour expliquer ce succès, le marketing, le business qu'est la vidéosurveillance, qui est très bien structuré en France avec, dès le départ de la politique publique, même une année avant, la constitution d'une association nationale des villes vidéosurveillées, c'est son premier nom, constituée comme un lobby pour les industriels, qui va jouer à fond ce fameux partenariat public-privé qui est vanté par tous les gouvernements de droite comme de gauche depuis le début des années 2000. Donc une doctrine d'État qui est sur ce partenariat privé, un lobby, d'ailleurs développant toutes les stratégies de lobby en termes de communication, en termes d'organisation des universités, de la sécurité, de la journée de ceci, du salon de machin, qui est bien sûr inauguré par monsieur le ministre de l'Intérieur, par monsieur etc. Tous les aspects que vous pouvez imaginer du lobbying, pour ne parler que des plus officiels. Derrière ça, un marché de la vidéosurveillance, alors je suis obligé de passer vite là aussi, mais qui est à la fois un marché mondial, quelque part, hein, dont les Américains et les Chinois sont les leaders au plan mondial, qui est un marché absolument planétaire. Hein, je donne, pas si vous l'avez vu, le petit exemple hallucinant du Cameroun en Afrique subsaharienne. Hein, concrètement, c'est de ça dont on parle, hein, business as usual. Le Cameroun, qui figure, je crois, 155e sur 183 dans la liste des pays les plus riches et les plus pauvres dans le monde, qui a un tiers de sa population qui n'a ni l'électricité ni l'eau courante, mais dont l'État s'endette auprès de la Bank of China à hauteur de, je ne sais plus, combien de centaines de millions d'euros pour installer de la vidéosurveillance dans toutes les villes. Ce qui est tout à fait révélateur, hein, besoin de la population, où, quand, comment, pourquoi, qui. Donc un marché mondial avec des stratégies de lobbying très importantes, des stratégies commerciales très importantes, des technologies de sécurité qui arrivent souvent dans la mallette globale des technologies tout court. Un des premiers aujourd'hui, par exemple, une des grandes entreprises chinoises qui propose d'équiper en reconnaissance faciale et en logiciel dit de vidéosurveillance intelligente, c'est le mot du marketing bien sûr, n'est autre que l'énorme conglomérat chinois Huawei Technology, qui est aussi celui qui fabrique la plupart de vos téléphones portables, etc. C'est tout un ensemble de technologies, la sécurité rentrant souvent par cette porte plus globale des technologies, pas uniquement donc de surveillance ou de sécurité. La France n'est pas en reste, hein, avec plusieurs groupes industriels qui sont de taille européenne, voire mondiale, hein, et globalement un marché de la sécurité, comme plus globalement encore un marché de la sécurité civile, comme par ailleurs également un marché militaire, sur lequel la France est très fortement positionnée. Vous le savez, depuis même l'année dernière, la France est devenue le troisième pays vendeur d'armes, par exemple, hein, dépassant juste après les États-Unis et la Russie cette fois, dépassant l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc c'est un ensemble industriel de sécurité aussi bien militaire que civile très important derrière. Un secteur qui est l'un des très rares secteurs à pouvoir se vantait de connaître des chiffres de croissance annuelle à deux chiffres, hein, plus de 10% de croissance annuelle, ce qui est relativement rare quand même dans, dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, et un chiffre d'affaires global pour le marché début 2018 qui est au-delà des 30 milliards d'euros à peu près, pour uniquement pour les caméras cette fois-ci. Donc un secteur tout à fait florissant, au même moment d'ailleurs, parenthèse, où celui du gardiennage, donc des agents de sécurité privés, humains, lui, marque le pas depuis des années. Ce qui pourrait suggérer des interrogations en termes de, sur le thème aujourd'hui relativement classique en économie, des rapports entre l'emploi humain et la machine. Un des objectifs fondamentaux de ce lobby qui est de, c'est comme ça qu'il s'exprime, donc je le reprends aussi, vaincre le clivage gauche-droite, c'est-à-dire à faire en sorte que cette diffusion des technologies de surveillance ne soit pas gênée par les résistances politiques qui se rencontrent depuis le début, hein, du côté gauche de l'échiquier politique. Ce qui est une réalité, pas partielle, hein, évidemment, absolument pas systématique, mais dans l'ensemble, je le montre, je crois, dans le livre, dans l'ensemble, c'est bien plus souvent, plus fortement et pour des budgets plus importants du côté droit de l'échiquier politique qu'on va trouver la plupart des villes, ce qui ne veut pas dire que c'est un clivage radical, que c'est la totalité, en aucun cas. On va, au fil du temps, pour des raisons qu'on va voir dans un instant, la réussite globale de cette opération a effectivement en partie dépassé ce clivage politique qui était assez sensible au départ. Là, effectivement, en grande partie, même, on peut dire dépassé. Même si, je répète, les cas, sauf exception, les cas où on a les systèmes les plus anciens, les plus coûteux, les plus développés, demeurent marqués plus politiquement à gauche. Au passage, j'ai d'ailleurs rajouté, dans la version finale que vous n'avez pas eue, là, du livre, un petit passage. J'ai fait un petit zoom sur les villes gouvernées par le Front National depuis les dernières élections municipales. Ça me paraissait intéressant pour voir s'il y avait une spécificité. Hein. Donc, l'extrême droite conduit-elle à une extrême vidéo, machin. Et la réponse est non, en fait. La réponse est que les villes dirigées par le Front National depuis les dernières élections ressemblent, en fait, aux villes dirigées par la droite classique, classique, je dirais, je ne sais pas comment dire, classique, au discours le moins élaboré qu'on rencontre par ailleurs. Ce qui n'est pas inintéressant. C'est une des choses, d'ailleurs, parenthèse, qui m'a intéressé aussi là-dessus, c'est que, certes, c'est un livre qui parle d'une recherche qui s'inscrit dans la sociologie de la délinquance, mais pour moi, elle s'inscrit également dans la sociologie politique de la gouvernance, notamment locale, et elle participe aussi quelque part à la sociologie des techniques et des sciences. Enfin voilà, ça touche à plusieurs domaines, c'est aussi une des choses qui m'a évidemment beaucoup stimulé intellectuellement. Alors, quelles sont les... Donc, je récapitule, une politisation nationale très forte, appuyée sur une propagande, appuyée sur une incitation financière importante, une médiatisation qui prête de fait son concours permanent à la chose, un marketing industriel puissant, voilà les trois premières mamelles, bien sûr, de la réussite de cette nouvelle politique publique. Manque une quatrième, indispensable, dont je vais dire quelques mots maintenant, qui est la contribution des élus locaux. Puisque, en dernier ressort, la décision pour une ville de se lancer ou pas dans un programme de vidéo repose sur, fondamentalement sur le maire. Parce que, comme vous le savez, c'est l'occasion de le rappeler aussi dans le livre, parce que c'est peu su, je trouve, et très peu discuté en France. On parle tout le temps de l'organisation politique à un niveau national, à quand la 6e République, etc. Mais pour qui a connu, voire a fortiori a un tout petit peu pratiqué, ce qui est mon cas il y a très longtemps, il est tout à fait essentiel aussi de s'interroger sur le fonctionnement politique local, municipal en l'occurrence, et de constater l'espèce d'hyper-régime présidentiel qu'est le régime politique municipal. Fin de parenthèse, mais donc c'est sur la décision du maire en dernier ressort et de ses proches que ça va reposer. Alors j'analyse dans le livre, et comme le temps passe, je ne vais pas pouvoir y rester, mais je le signale, j'analyse en détail donc les pratiques municipales, à la fois, alors j'ai de plusieurs manières, il y a une espèce de revue un peu nationale que je propose. Ensuite, je me suis amusé à chercher évidemment quelles étaient les villes les plus vidéosurveillées de France. Alors, je crois avoir trouvé, pour donner quelques anecdotes quand même, qui font partie aussi des petits souvenirs qu'on peut garder d'une telle présentation, la ville la plus surveillée de France est dans notre région, évidemment, ça on pouvait s'y attendre. L'endroit est plus inattendu, vous êtes parfois peut-être allé déjà vous promener dans le Verdon, n'est-ce pas, avec ces magnifiques petits villages, Poète-Poète sur Verdon, et y en a un de ceux-là, un de ces Poète-Poète, en l'occurrence c'est Baudinard sur Verdon, disons-le, 156 habitants, quelque chose comme ça, qui, avec ses, je ne sais plus dans le litre, 13 caméras de vidéo, a donc un ratio caméra par habitant d'une pour 12 à peu près, qui est le plus gros qu'on ait jamais trouvé. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le nombre de caméras, bien sûr, parce que vous me direz, il y en a 2000 à Nice, il y en a 1500 à Marseille, etc. Oui, mais rapporté aux populations concernées. Là, on est sur un village de 156 habitants. Le maire en pose quand même 13, y compris 3 sur la crèche, une sur la déchetterie, pour surveiller quand même si on met dans le bon bac hein, le plastique et les déchets verts organiques. Voilà, c'est pour dire que ça peut... On peut aller très loin et s'interroger évidemment sur les motivations, ce que dans certains cas j'essaie de faire, mais globalement je ne fais pas, pour la simple raison que je ne suis pas dans la tête et je n'ai pas interviewé beaucoup d'élus, mais quelques-uns quand même. Alors ceux que j'ai interviewés ont plutôt nourri au-delà de cet exemple. Je prends ensuite un exemple départemental, hein, puisque j'ai demandé dans les Bouches-du-Rhône à avoir accès donc, à cette liste des villes équipées en connaissant le nombre de caméras, etc. Ce qui permet là aussi de constater que les villes qui ont le plus fort ratio caméra par habitant, ça n'est pas Marseille, ça n'est pas Aubagne, ça n'est pas Salon, ça n'est pas Aix, ce ne sont pas les principales villes, ce sont des toutes petites villes ou des tout petits villages où objectivement on peine à trouver des problèmes de sécurité. Alors c'est d'un côté vraiment les plus équipés, j'en fais un petit portrait que j'espère à la fois sérieux et parfois un peu amusant, c'est quelques villages parmi les plus riches de la banlieue aixoise, hein, qui sont où sont les hyper riches, comme dirait Alternative économique, où sont les hyper riches du sud, concrètement ils sont pas très loin d'Aix-en-Provence, en réalité si vous connaissez un peu les environs, hein, dans des petits villages que vous connaissez, où on peine effectivement à avoir des problèmes de sécurité, hormis quelques cambriolages dans les luxueuses villas. Mais quoi d'autre quand on sait que la plupart de ces villages n'ont plus aucun commerce de proximité, par exemple, il ne reste pas de grands braquages. Dans la plupart des villages que je cite, tout juste il reste une boulangerie, réellement. Donc à part quelques cambriolages, on voit mal la chose. Or, on le verra tout à l'heure, les cambriolages, ce n'est pas vraiment ce que la vidéosurveillance peut prévenir ou permettre de réprimer le mieux, tant s'en faut. On trouve également quelques petits villages des Alpilles, où également, je passe en revue, je détaille, y compris en produisant les quelques données qui existent. Le nom m'échappe à l'instant de ce petit village où la gendarmerie constate 35 faits par an. Ce qui est vraiment dire si on dort quand même très tranquillement là-bas, mais dont le maire, pour des raisons personnelles et idéologiques, tient des discours absolument hallucinants sur l'état de menace globale dans lequel nous sommes, d'envahissement, il ne dit pas le futur grand remplacement, mais enfin, vous voyez un petit peu où ça nous mène. La nécessité absolue de lutter contre le terrorisme qui nous menace et machin bidule, tout ça, dans son petit village des Alpilles où la gendarmerie enregistre 35 problèmes par an. Les problèmes en question étant pour la plupart ce que le chef de la police municipale locale, car elle a aussi une police municipale bien sûr, appelle des incivilités. C'est vous dire le niveau de la sécurité dont il est question. Donc ce petit tour me permet principalement de faire ça, à savoir que les villes ou villages donc les plus fanatiques de la vidéosurveillance sont des endroits où objectivement il ne se passe à peu près rien. Qui est quand même fort intéressant. Alors si on élargit maintenant à l'analyse des motivations des élus locaux, ce qui prend un peu plus de place pour lire, il y en a toute une gamme. Pour aller aux principaux, je dirais trois choses pour me limiter à l'essentiel. Premièrement, à l'évidence, une méconnaissance et une crédulité générale. C'est pas un scoop ni une insulte, je veux dire, quantité de travaux ont souligné des problèmes de méconnaissance technique, des problèmes de formation quasi inexistants de beaucoup d'élus locaux, a fortiori dans des petites villes, etc. Donc, une méconnaissance, ça c'est tout à fait évident. L'idée même qu'il puisse y avoir une évaluation, anticiper véritablement les coûts, savoir précisément à quoi faire autre chose que répéter le discours que lui a dit le commandant de la brigade de gendarmerie. Donc, il y a beaucoup d'endroits où c'est tout à fait impossible de trouver le maire ou un élu qui en sache plus que cela. Donc c'est une première raison à la réussite de la chose, la méconnaissance et la crédulité. Deuxièmement, c'est très important, la pression de conformité, pour reprendre une expression classique de la psychologie sociale. Sauf que là, c'est pas un petit groupe de personnes dans la même pièce qui regardent des lignes que deux complices leur font dire parallèles alors qu'elles ne sont pas, et ils répètent tous parallèles en cœur. Chacun connaît les célèbres expériences qui remontent aux années 30 et qui sont quand même, qui restent évidemment complètement impressionnante. Là, c'est la pression de conformité à une échelle plus globale et sans contact direct entre les gens, mais c'est la totalité de ces élus qui, au fond, se disent, dans mon et s'entendent dire par les autres, regarde, dans l'agglomération, il y a 15 communes, il y en a déjà 11 communes à vidéo, tout le monde se tourne vers les quatre autres en disant, mais quel est votre problème? Pourquoi vous ne voulez pas en mettre? Enfin, vous avez des résistances idéologiques incroyables. Hein. Donc c'est ça que j'appelle la pression de conformité, hein, c'est ce mécanisme. Donc, plus il y en a et plus il y en aura, puisqu'encore une fois, plus du coup, ceux qui n'en mettent pas sont regardés comme les vilains petits canards. Ce qui est très très intéressant, et ça je l'ai observé, pour ma part, recueilli en entretien et lu dans des coupures de presse donc, que je produis à chaque fois. Voilà, typiquement, il y a cette chose-là. Et puis la troisième chose, dont j'ai tendance à penser, je ne peux pas faire de statistiques sur le poids de chacune des motivations, hein, c'est tout à fait impossible, surtout qu'elles sont souvent mélangées. Mais la troisième, que je crois néanmoins la plus forte, qui reste le jeu politicien électoral traditionnel, hein, à savoir que les discours les plus virulents s'entendent typiquement dans une opposition de droite qui veut prendre la ville à la gauche. Les discours pour installer, les discours pour développer s'entendent typiquement dans une majorité de droite qui veut rester aux élections à la prochaine et qui va promettre de... Voilà. Il y a des choses très classiques, très clivées, la sécurité étant typiquement un argument de rhétorique électorale de droite, comme il y a des arguments de rhétorique électorale de gauche sur d'autres sujets, on retrouve donc cet argument sécuritaire vraiment de manière assez massive et dans le jeu, dans l'opposition, majorité-opposition au niveau local, ça se voit vraiment très bien. Tout ça, je répète, en méconnaissance des choses, et même parfois, uniquement pour la symbolique politique des choses. Le dernier exemple preuve que je donne en ce sens, je l'ai rajouté également par rapport à l'édition que vous avez lue, hein, c'est en rajoutant 2-3 pages sur, en fait, les endroits où il y a en théorie un système de caméras dont la mairie se vante, mais qui en fait ne marche pas. Ce qui est quand même intéressant aussi. Alors je prends 2 cas, le premier qui m'a été donné, enfin 3 cas, un des terrains où ça marche pas pour la raison qui est la plus banale et la plus commune de toutes, à savoir que beaucoup de caméras sont installées parce qu'elles sont fixées à des poteaux préexistants, hein, de type typiquement poteaux EDF, feu rouge, etc., c'est-à-dire sont installées à hauteur d'arbres et par conséquent ne peuvent filmer que pendant l'hiver lorsqu'il n'y a pas de feuillage, mais se trouvent incapables de plus rien voir les autres saisons. C'est ce que j'ai vu dans la plupart des villes. Voilà. Deuxième souci qui m'a fait percuter au point d'en faire un gros paragraphe là-dessus, c'est lorsque j'interviewe un commissaire de police il y a quelques années à Aix-en-Provence et qui me dit tout de suite « Ah, la vidéo ici, c'est un gag !» et qui me donne tout de suite 2-3 exemples truculents de caméras qui filment des choses qui n'ont rien à voir, qui ne servent à rien, etc. Et troisième exemple, il m'est fourni, c'est ce qui m'a décidé à écrire comment là-dessus, il m'est fourni il y a très peu de temps, il y a 2 mois, dans une formation d'élus que je fais à Avignon. Avignon, qui vous en souvenez, à la surprise générale, est passé de droite à gauche aux dernières élections de 2014. Et lorsque la nouvelle équipe municipale de gauche plurielle, on va dire, est venue, elle a évidemment, comme souvent, fait procéder à un audit de tous les services. Et donc dans une ville qui se vantait, il y a encore quelques années, d'être avec Nice le pionnier de la vidéosurveillance dans la région. Voilà. Et donc l'audit a montré que sur les quelques 130 caméras, je crois, un truc comme ça, il n'y en avait que un quart qui marchait. Les autres, tout simplement, ne marchaient pas. Parce que pour des raisons de coût, on avait cessé de les entretenir et elles étaient tombées en panne et on les avait laissées, etc. Donc c'est pour dire qu'encore une fois, à quel point on est dans la symbolique politique ici, comme c'est le cas le plus souvent. Alors comme j'ai quasiment épuisé mon temps, je sais pas comment faire pour vous passer très rare, pour vous dire un mot quand même des 3 terrains qui sont là. Là j'ai parlé de la première partie au fond de l'enquête, qui est toute cette analyse du système national. Ok. Je vais essayer de faire un méga résumé, juste pour donner une idée de ce que sont maintenant, ce qu'est la deuxième partie de l'enquête, à savoir les 3 enquêtes de terrain proprement dites. Donc celles-là qui sont, après les généralités qu'il fallait mettre en place, ben, 3 trucs hyper fouillés, au fond, hein, avec donc une petite, une moyenne et une grande ville. Donc la petite qui devient Beau-Rivage, la grande Saint-Paul, la Rivière, et la troisième méga-city, mais qui donc est Marseille. Donc à chaque fois, j'essaie de poser le cadre, alors, à la fois expliquer les conditions dans lesquelles j'ai fait l'enquête, mais conditions qui sont grosso modo les mêmes dans les villes. La seule différence, c'est que parfois, autour de moi, il y avait plus ou moins une équipe. Mais bon, grosso modo, ça part du même principe. Hein. On a les autorisations pour faire ce qu'on veut, rencontrer qui on veut, poser les questions qu'on veut et demander à avoir accès aux documents qu'on veut. Ensuite, bien sûr, je présente chacune des villes à la fois dans son contexte géographique, sociodémographique général et dans son contexte sécuritaire. Hein, ça commence toujours par une analyse, bien sûr, de quel est l'état des problèmes de délinquance dans la ville. Est-ce qu'il y a ce que la police appelle des violences urbaines, hein, c'est-à-dire des révoltes, des mini-émeutes, etc. ou pas? Est-ce qu'il y a du trafic de drogue ou juste du petit... Hein, bon, chaque fois je fais ça. En gros, il y a une grande ville où, vous le savez, il y a une plaque tournante des trafics, et puis par ailleurs, une délinquance de voies publiques à un niveau assez élevé, mais pas fondamentalement différent des autres grandes villes. Et dans les deux autres villes, il n'y a pas de problème particulier, hormis la traditionnelle délinquance de voies publiques, c'est-à-dire l'ensemble des vols, cambriolages, dégradations et petits fritements qui peuvent survenir sur la voie publique. Et puis j'analyse à chaque fois, donc je présente le système concrètement, ce sont à chaque fois des systèmes différents, hein, techniques, de caméras, techniques parce que ce sont des matériaux de génération différente, parce que les caméras se contentent d'enregistrer ou parce qu'il y a également des gens qui sont payés pour regarder en direct ce que les écrans retransmettent. Donc il y a une ville, la petite, où les caméras ne font que enregistrer, hein, pendant 15 jours et gardent au cas où les gendarmes viennent réclamer qu'on cherche une image. Et puis il y a deux villes où il y a en langage administratif un CSU, un centre de supervision urbain, dans lequel donc sont employés des agents municipaux, policiers municipaux ou ASVP, agents de surveillance de la voie publique, qui à longueur de journée, par équipe, par rotation, soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme dans la grande ville Marseille, soit au départ c'était ça, puis après faute d'activité on l'a réduit, donc ça devient simplement du lundi au samedi de 7h à 21h je crois dans la moyenne ville. Voilà, donc, je pratique ceci. Alors je détaille dans chacune des villes à la fois donc le système, la problématique locale et l'effet qu'a eu l'implantation de ce système, cette politique qui était censée donc permettre de contrôler, réduire drastiquement les problèmes, a-t-elle réussi ou pas? Là pour le coup je l'étudie de manière confrontée à l'objet et à ce qu'on peut savoir de cet objet. Voilà, dans la petite ville, le problème ce sont des cambriolages. Est-ce qu'on a avancé sur la problématique majeure des cambriolages? La réponse est non. En étudiant au passage les images qui sont, les réquisitions qui sont faites par les gendarmes, je montre que ce n'est pas du tout des personnes, et encore moins des visages de personnes qu'on cherche à voir dans les réquisitions d'images. Ce sont fondamentalement des plaques d'immatriculation de voitures, ce qui nous éloigne beaucoup du vidéoflag. Ça montre que la vidéo est utilisée en fait pour repérer essentiellement donc des véhicules, des plaques, qui vont donc donner un élément parmi beaucoup d'autres à un enquêteur pour confirmer, infirmer par ailleurs un témoignage, une audition, un alibi, quelqu'un qui dira oui j'étais dans cette ville tel jour à telle heure où je n'y étais pas, on dira en tout cas c'était votre voiture, oui, mais en aucun cas c'est la tête en gros plan de la personne, etc. L'impact du système, je le montre très en détail. Localement, il y a eu une tentative de sécuriser un parking qui était l'objet de beaucoup de vols et de vandalisme sur les voitures, parking d'une gare, donc les gens qui arrivent le matin, qui laissent leur voiture toute la journée, qui la reprennent le soir en rentrant. Donc c'est le lieu évidemment idéal pour faire ce qu'on appelle en langage policier du vol à la roulotte, hein, de casser la vitre, piquer ce qu'il y a dans la voiture. Résultat du fait de mettre beaucoup de caméras branchées et des patrouilles qui viennent régulièrement intervenir, c'est qu'effectivement on a diminué de façon drastique les vols sur le parking. Mais moi je ne me contente pas de ça, je regarde aussi à la fin de l'année sur l'ensemble de la ville qu'en est-il des vols dans les voitures, et je constate qu'il y en a toujours autant. Autrement dit, la délinquance s'est déplacée à un autre endroit de la ville. Et c'est un effet majeur que toutes les études anglo-saxonnes ont montré depuis longtemps, cet effet de déplacement des problèmes quand on concentre le système de vidéo pour sécuriser un endroit très précis, que ce soit un parking, un lieu de deal ou autre. Et je montre par ailleurs que ce qui explique pendant une des années qu'on étudie la baisse des cambriolages, c'est pas du tout le système de vidéo, mais c'est la stratégie d'occupation du terrain que je fais raconter en détail par le commandant de la brigade de gendarmerie, mais qui ne dure qu'une année, l'année 2015, parce qu'en 2016, après les attentats, ils ont tellement été sollicités par d'autres missions, en étant obligés d'aller faire tous les diagnostics de sécurité dans tous les bâtiments, espaces publics ou autres, que du coup ils ont quitté les ronds-points, les machins, donc la stratégie de saturation du terrain qu'ils avaient, et que les cambriolages sont repartis à la hausse. Tout ça n'a aucun rapport avec la vidéo. À Saint-Paul-la-Rivière, j'ai pu étudier pour la première fois, enfin pour moi, hein, Tanguy Le Goff avait fait déjà un article là-dessus, étudier donc le fonctionnement des opérateurs, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font enfermés à longueur de journée devant les écrans, et j'ai pu montrer je vais passer rapidement là-dessus. J'ai pu montrer qu'est-ce que c'était, voilà, leur journée type, hein, encore une fois, pendant deux semaines, enfermés tous les jours, en arrivant le matin, en partant le soir avec eux, montrer qu'est-ce que c'était que leur travail, et faire au fond une observation sociologique de l'ennui, hein, car le principal problème de ces opérateurs et que la plupart du temps, dans les villes, il ne se passe rien. La plupart du temps, il ne se passe rien. Et que la plupart de ces agents, qui par ailleurs ne sont pas heureux de s'ennuyer, attendent en fait désespérément dans la journée qu'on les sollicite pour avoir quelque chose à faire et pour se rendre utile et être un peu valorisé. Donc quand un policier ou un gendarme débarque en disant je voudrais une image, c'est... ils ne le font pas, mais c'est... Yes, bon, c'est pas trop là, quoi. Enfin, on va s'exciter un peu, on va faire un truc... voilà. C'est tout à fait ça qui se passe. La plupart du temps, ils ont mis en place quelques rituels de surveillance. Par exemple, entrée d'école sur tel passage piéton, le machin, doubler la présence de la police municipale le mercredi parce que c'est le jour de marché, avant et après, des enlèvements de véhicules, des choses comme ça, qui en fait doublent le travail de terrain des agents des policiers municipaux. Mais en dehors de ces quelques rituels précis de surveillance, qui sont toujours les mêmes, hein, les gens s'ennuient à mourir. Je donne quelques détails truculents de tout ça. Les gens qui finissent par observer les convois de mariage le samedi, parce que la ville est désespérément morte. L'espèce de petite micro-guerre picro-colline à laquelle se livrent les opérateurs et des groupes de jeunes sur la place de la mairie, qui est évidemment un enjeu symbolique, comme dans beaucoup de villages, mais surtout là, gros discours de la mairie sur les jeunes, les incivilités. Donc, du coup, ils viennent évidemment sur la place s'amuser, boire des bières et fumer quelques pétards. Et le grand jeu localement est devenu de mimer en fait des scènes de deal, des scènes de bagarre, parce qu'il y a une caméra juste au-dessus qui est positionnée à 4 mètres, dont on repère donc quand elle tourne, etc. Et que donc les jeunes s'amusent avec les... voilà. D'où ce que me dit à la fin d'un entretien d'ailleurs un opérateur qui, eux aussi, ils s'ennuient en fait. Voilà. Impact sur la délinquance enregistrée à Saint-Paul-la-Rivière de tout ça. Bon, voilà, on peut sortir les données, les statistiques de la police. Pour le coup, l'enquête en population générale que j'ai faite, je l'ai faite à un instant T, hein, elle n'a pas été faite avant, ni été faite après. Donc on a que la statistique administrative, mais qui pour un certain nombre de faits enregistrés de la même façon, à contexte juridique équivalent, permet de voir une évolution qui n'a strictement aucun rapport avec les grandes étapes d'implantation ou de révision ou d'amélioration du système de vidéosurveillance. Et je ferai le même constat au niveau national à la fin de la recherche. Alors dans Megacity, donc on ne peut pas dissimuler le vrai nom. J'ai pu faire là à nouveau les mêmes choses, hein, c'est-à-dire avec à nouveau accès à toutes les données que je pouvais à l'époque, évidemment. Ça c'est une autre question qu'on verra peut-être tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on devient après, qu'est-ce que les gens font de tout ça. Voilà. Bon, à Megacity, il y a peu de chances que je puisse y retourner. Les autres, oui, mais... parce qu'ils s'en fichent complètement, en fait, de toute façon. Voilà. Les Megacity, ils sont en plus énervés qu'on ne dise pas ce qu'ils aimeraient entendre. À Megacity, j'ai pu non seulement... j'ai pu ici exploiter surtout des données précises sur quel type de combien et quel type d'infractions, d'actes délinquants sont repérés, donnent lieu à une opération de police, font l'objet d'une enquête et sont éventuellement plus ou moins aidés, voire élucidés grâce à la vidéo, avec des données extrêmement précises à ce niveau-là, ce qui m'a permis de mettre en évidence un effet majeur du détournement du système, qui est logique compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, savoir si précisément en réalité ces agents qui sont informés longueur de journée s'ennuient parce qu'il n'y a pas des actes délinquants à tous les carrefours tous les jours, ça c'est juste un fantasme, dans aucune ville il n'existe ça, en tout cas dans les pays européens que je peux connaître, et il faut donc bien s'occuper à autre chose, donc détourner le système pour faire autre chose. Et certaines villes, Nice dès l'année 2010, Marseille assez rapidement aussi, ont vite compris que le plus intéressant, à la fois ce qui colle le plus à l'emploi ordinaire d'un policier municipal et par ailleurs le plus lucratif également, eh bien c'est en fait de détourner le système pour faire de la vidéo-verbalisation. C'est-à-dire, en fait, pour s'en servir, pour réprimer la délinquance routière, les infractions routières, ce qui, au départ, était autorisé sous réserve d'une autorisation locale par procureur de la République uniquement, ou principalement, en tout cas, pour le stationnement gênant, mais qui, depuis une loi de décembre 2016, a été étendu à la quasi-totalité des infractions routières, et permet donc aujourd'hui à toute commune qui le souhaiterait de développer massivement ce système. Et ce que j'ai pu, du coup, chiffrer et prouver dans le cas de Marseille, quand vous le voyez, alors, ce qui va être mis évidemment en avant dans le rapport d'activité de la police municipale, dans le discours des élus, etc., eh bien, ça va être bien sûr le nombre de faits qui ont été constatés en direct, les réquisitions, les recherches qu'ils ont faites. Mais, ok, on a constaté en direct 1200 incidents, oui, bah oui, mais combien nous avons verbalisé ? Près de 37 000. C'est-à-dire que le cœur véritable du système, le cœur répressif réel du système, c'est le PV, en l'occurrence principalement pour stationnement gênant. Ce qui évidemment est politiquement incorrect, n'est pas dit du tout officiellement par la mairie, n'est avoué que du bout des lèvres, figure dans la dernière page du rapport d'activité de la police municipale, alors que les faits constatés en direct sont sur la première, quand on, avec juste en dessous le nombre de personnes interpellées remises à la police nationale. Mais qui, où là on compte, dans, de mémoire, la dernière année c'était de 200, hein, 37 000 vidéo-verbalisations, ce qui remet les choses à leur place. Et j'ai pu également, grâce au concours de la préfecture de police de l'époque, obtenir des données assez précises permettant de graduer encore la contribution des images vidéo réquisitionnées après coup aux enquêtes de police, en l'occurrence zone police, avec un distinguo utile simplement à l'enquête ou déterminant pour l'élucidation. Alors oui, c'est intéressant puisqu'on voit qu'en 2015, donc au maximum de développement du système, élucidé par la vidéo, ben c'est 103 affaires dans l'année. Alors, on replace ça maintenant avec tout ce que j'ai dit avant. 103 affaires dans l'année, il y a 365 jours, ça veut dire que quasiment une fois tous les trois jours, vous pouvez lire dans le journal local La Provence le petit article qui va bien sur la belle affaire élucidée grâce à la vidéo, et avoir du coup l'impression que ce système est absolument omniprésent et central. Oui, mais 103 affaires, combien la police nationale a-t-elle traité globalement d'affaires de délinquance de voie publique sur la même année, en l'occurrence 2015, à Marseille? Comme ça inclut également les infractions routières, puisque dans les affaires, il y a un certain nombre d'accidents et de délits de fuite, cette masse à laquelle il faut rapporter les 103 affaires se situe entre 55 et 58 000 affaires. Ce qui donne une idée, en réalité, du 0, quelque chose, à quoi renvoie l'usage déterminant de la vidéo dans une enquête de police sur une année entière à Marseille. Donc la montagne accouche quelque peu d'une souris. Au global, si on prend le critère plus important d'être au moins utile, même si ce n'est pas décisif, on va dire que la vidéosurveillance est utile dans 1% des enquêtes menées par la police nationale à Marseille sur une année entière. Dans la ville précédente, j'arrivais à un chiffrage légèrement supérieur. Sur l'ensemble, du coup, en conclusion générale, ça me permet d'estimer que, selon les villes, une proportion qui est comprise entre 0 et 5% de la totalité des affaires que une police ou une gendarmerie, selon la zone de compétence, fait dans une année entière, est possiblement impactée en positif, aidée par la possibilité de recueillir des images. Entre 0 et 5%, selon la ville, selon le dispositif concret, selon le nombre de caméras, ce qu'elle filme ou ne filme pas, si elle marche ou si elle ne marche pas, selon un tas de critères que j'ai évoqués en passant. Conclusion générale. Ils sont marrants, les petites photos que je trouve. La vidéosurveillance n'est pas et ne sera jamais, l'outil majeur de lutte contre la délinquance qui est annoncé depuis le départ. Ça sera juste au mieux ce que je viens de dire. Ce qui signifie que placer quelques caméras à des endroits stratégiques en termes policiers, et pas en termes politiques bien sûr, j'ai pas eu le temps de parler de pourquoi et comment on choisit là où on implante des caméras. Il n'y a pas que du stratégique policier, il y a aussi du politique. Mais à quelques endroits stratégiques pour éventuellement retrouver des images peut aider un petit peu dans un nombre très réduit de cas les policiers ou les gendarmes, mais si on peut se le permettre, ben c'est toujours ça de prix pour eux, leur travail et pour notre sécurité. Par contre, d'autres caméras qui sont là pour faire plaisir à telle ou telle personne ou catégorie de la population pourraient, à mon sens, ou devraient être désinstallées. Quant à employer des agents municipaux à longueur de journée pour regarder des écrans, il est très clair que ça ne contribue en rien à améliorer notre sécurité. Par ailleurs, dans chacune des villes où j'ai fait l'étude, il existait une police municipale et des chefs de police municipale qui disaient invariablement: je vois ce que c'est la police de proximité, j'aimerais pouvoir en faire un peu plus, mais je manque d'effectifs. Le cas absolu, c'est ici le cas de la ville de Nice, où il y a 125 agents territoriaux exclusivement affectés au CSU qui se relaient en équipe pour être 7 pouces sur 7, 24 heures sur 24. 125 policiers municipaux. On peut imaginer ce qu'on peut faire en termes de travail de terrain, par ailleurs, avec 125 personnes. Ça fait partie des petits calculs que je propose d'ailleurs à la fin du livre, à savoir, voilà le budget global que depuis tant d'années a mis telle ville dans telle chose. Voilà l'équivalent en agents catégorisés temps plein, policiers municipaux, primes comprises. Pour qu'on ait une idée de ce que pourrait être dans le même temps, avec le même budget, l'emploi d'autres façons de faire de la prévention ou de la sécurité. Alors je commence par l'emploi d'autres façons de faire de la sécurité, c'est-à-dire montrer que, suggérer que peut-être on ferait aussi bien, voire beaucoup mieux, avec des agents, des policiers de terrain. Deuxièmement, j'avance aussi que dans un certain nombre de territoires, typiquement ici la petite ville et en partie la moyenne ville, le besoin premier n'est même pas spécialement en termes de policiers municipaux. Ils paraissent relativement suffisants par rapport aux missions qui leur sont confiées. Par contre, je montre dans le diagnostic social qui est présent dans chacune de ces villes, je montre que par contre, par exemple dans la petite ville, il n'y a pas de politique jeunesse, il y a certaines aberrations. Il n'y a pas de centre social, il n'y a pas de MJC, il n'y a rien de tout ça. Et il y a un problème majeur qui est lié à l'absence totale d'occupation proposée aux adolescents et aux jeunes adultes pendant les périodes de vacances scolaires. Or, un certain nombre de problèmes de petite délinquance qui surviennent au quotidien dans une ville sont liés à l'oisiveté de certains adolescents et jeunes adultes. Et je montre qu'à budget égal, on comblerait on comblerait très largement le besoin en politique jeunesse et prévention avec l'argent qui est mis dans la vidéosurveillance chaque année. Donc je décline ça sur l'ensemble de ce que peut être globalement une politique. Alors, à quoi on a affaire globalement là-dessus? Je dirais fondamentalement à une grande entreprise politique, à une façon de faire de la politique avec la sécurité, une fois de plus, pas nouveau dans ce domaine, mais c'en est, à mon sens, une magnifique démonstration empirique particulière, dont les modèles les plus caricaturaux, malheureusement, le plus caricatural de tous, sans doute, je n'ai pas pu l'étudier, c'est celui de la ville de Nice. Mais pour l'étudier, il faut qu'on vous ouvre la porte et que vous puissiez regarder ce qu'il y a dans le placard. À Nice, comme par hasard, il n'y a jamais eu d'évaluation extérieure, en fait. Ce que la Cour des comptes dit en tout cas dans un de ses rapports, d'ailleurs. Et pour cause, c'est parce que derrière ça, et derrière le marketing industriel, ceci ressemble beaucoup quand même à ce que Jacques Ellul, un vieux penseur des techniques français, appelait le bluff quand même technologique, à savoir la production continue de gadgets dont il n'est jamais montré qu'ils répondent à des besoins qu'on aurait diagnostiqués au terme précisément d'un diagnostic des besoins. Cette démarche même de diagnostic des besoins de la population n'existant pas dans toute cette chaîne de construction d'une politique publique. Dès lors, on a surtout affaire, me semble-t-il, au développement sans fin du produit de l'alliance entre, un marketing politique et un marketing industriel, qui est sans fin, puisqu'on a eu les caméras fixes, puis des caméras qui tournaient à 360, les caméras imaginiques, puis des caméras qui zoomaient, puis des caméras qui zoomaient en infrarouge pour voir la nuit, puis des caméras couplées avec des logiciels permettant de la détection de mouvements rapides ou de la reconnaissance faciale. Et j'annonce également à la fin que la prochaine étape est de toute façon déjà prête. C'est comme l'iPhone 6 qui sera remplacé par le 7 programmé pour être obsolescent, le 8 arrivant peu après. Et le 6 à peine sorti, c'est déjà le 8 qui est déjà technologiquement prêt. L'étape suivante, qui arrivera bientôt, sera celle des drones, puisqu'on vous dira qu'il coûte trop cher de mettre des caméras partout. Nous n'avons que 3% de la surface communale vidéosurveillée. Il faudrait surveiller 100% pour vraiment les voir tous, tout ça. C'est pas possible financièrement. Qu'à ce tienne, la mobilité arrive. Alors pour l'instant, c'est la caméra branchée en Wi-Fi qu'on va déplacer, c'est quand même un coût de main-d'œuvre important. La prochaine étape, c'est donc celle du drone qui se déplacera tout seul. Le dernier salon du Bourget a en long et en large montré que la chose était toute prête. Il suffit d'enclencher, juste une fois qu'on sera sûr d'avoir épuisé le marché actuel, d'enclencher la prochaine phase industrielle.